continue sur la route comme le disait Mathilde, où on part en direction Saint-Étienne pour un autre curieux rancard, exactement à l'Opéra de Saint-Étienne. Et là, ce qu'on entend derrière nous, des magnifiques prises de son, on ouvre des portes, on traverse des couloirs, c'est celle d'Enzo, n'est-ce pas Mathilde ?
Oui, Enzo qui est un preneur de son en herbe très très talentueux. En à peu près 3 minutes, il a compris comment poser ses micros,
mieux que
où
nous,
aller chercher le son, écouter, c'était super. Donc voilà.
Donc c'était un curieux rancard un peu dédié autour d'un atelier sur le chant à l'opéra où il y avait Julie, Margot, Henri, Roxane, n'est-ce pas Julia ?
Oui, c'est ça. C'est donc des jeunes gens qui sont accompagnés par un établissement qui s'appelle le DEAT 42, situé à Saint-Étienne, qui a commencé à se construire une petite histoire avec cette institution un peu mythique qui est l'Opéra de Saint-Étienne, puisqu'on avait déjà eu un précédent très très joli projet ensemble, plutôt autour de la danse. Et là, il y avait l'envie de repartir sur de la découverte, sur cet endroit qui est quand même l'endroit emblématique de l'art lyrique, et notamment de toute l'expression vocale qui s'épanouit, et il y a matière à découvrir peut-être dans le petit reportage qui suit.
On va écouter le petit reportage. Juste, on écoute encore une toute petite prise de son de Enzo parce qu'elle est magnifique dans l'atelier Kutu.
J'étais tellement choquée par votre voix. Enfin, je trouve c'est super. Enfin, c'est un super talent de réussir à chanter comme ça.
Alors, tu sais, c'est beaucoup de travail. Il y a 7 talents et 7 travail.
Bonjour, je m'appelle Catherine Séan, je suis chanteuse d'opéra et je suis aussi médiatrice culturelle. Je travaille beaucoup avec les publics empêchés en prison, avec les personnes âgées en hôpital gériatrique et puis avec les enfants de l'aide sociale à l'enfance notamment.
Chut !
Allez-y.
Chut ! Chut !
Ne réfléchissez pas.
Chut !
Chut !
Chut !
Chut !
Chut !
Oh !
Oh !
Oh !
Oui !
Oui !
Alors, on vient d'assister à un atelier vocal. Quels sont tes ressentis ?
Ce qui est toujours formidable, c'est de voir que souvent, les jeunes, ils sont très ouverts naturellement et ils se prêtent au jeu assez vite. Et ça, c'est très chouette. Et puis, quand à la fin de l'atelier, ils disent « c'était formidable parce qu'on a fait sortir des choses de nous qui étaient bloquées », c'est très émouvant parce que finalement, c'est un médium très simple, la musique. Alors, l'opéra, non, c'est difficile, mais la voix, c'est notre instrument, donc c'est notre corps. Et le fait qu'ils aient cet accès-là direct à leurs émotions à travers ça, c'est je trouve très important et je pense à un outil thérapeutique qui, voilà, sans en avoir le nom, qui peut être vraiment intéressant.
Bonjour, je m'appelle. Bon, alors, bonjour mademoiselle, comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Margot.
Enchantée Margot, et vous-même ?
Roxane.
Enchantée Roxane, et vous jeune homme ?
Moi je m'appelle Henri.
Oh, c'est un très beau prénom au demeurant. Et est-ce que tu peux le dire avec une voix grave ?
Moi, je m'appelle Henri.
Je m'appelle Henri.
Ce que je pense, c'est que surtout, le travail d'imitation compte beaucoup. Donc, il faut leur donner beaucoup d'exemples et leur dire de laisser leur cerveau de côté pour rester dans l'imitation. L'oreille est un excellent imitateur. Donc, je donne juste quelques rudiments de souffle et de voile du palais pour trouver les résonateurs. Et après, c'est beaucoup d'imitation. Et puis, de trouver la souplesse du corps, avec notamment l'ouverture de la bouche et la souplesse de la mâchoire. Et ils ont adhéré immédiatement. Donc, et j'ai réussi à faire trouver, notamment à Julie, la voix de tête tout de suite, et ça c'est très chouette parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, et en fait c'est juste un petit déclic qui se fait, et ça aussi c'est très beau de voir le regard qui s'illumine en disant ah, ça y est, j'y arrive finalement assez vite.
Oui,
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 oui, oui, oui,
oui, oui, oui.
Oui, parce que là, sur cet atelier, ce curieux rencard, on voit que tu as quand même une... Tu captes tout de suite les personnalités de chacun et tu les mets en avant.
Oui, ce qui est difficile, c'est à la fois de les mettre en avant sans les brusquer, parce que c'est quand même très intime de se mettre en avant par le chant. Il faut les laisser venir. Il faut être directif sans l'être trop. C'est ça qui n'est pas évident. Mais et c'est, en fait, le truc de fond, c'est la bienveillance, enfin, la bienveillance globale. Et ça marche parce qu'en fait, ils sont en confiance et ils ne se sentent pas jugés. Il ne faut pas de barrière, il faut juste leur dire d'y aller. Et finalement, ça fonctionne.
Je t'aime, le je t'aime. C'est long.
Je casse les ongles.
Super. On arrive bientôt avec vous. On peut reprendre. Deux, un.
Dans ton parcours personnel, professionnel, initié, si je puis dire, vulgariser l'opéra, qui n'est pas toujours accessible à tous et toutes, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? C'est une voix, c'est un... Une quête, quelque sorte?
C'est très important. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai commencé en médiation scolaire, en faisant des ateliers pour les enfants qui ensuite venaient à l'Opéra de Saint-Étienne. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que c'est un vrai outil. Et le chant, c'est vraiment un outil de reconnexion à soi. J'en suis intimement persuadée. Et en plus, c'est la musique, enfin l'opéra, il y a des choses absolument merveilleuses. Et cet accès au beau, en même temps qu'à cette reconnexion au corps, fait que ça peut fonctionner. C'est toujours bouleversant de voir des personnalités qui s'ouvrent tout d'un coup et qui vont ressortir en ayant, avec, j'espère, un tout petit peu plus d'estime d'eux-mêmes dans ce qu'ils ont appris.
Je laisse passer la voiture. Alors, en fait, c'était juste pour avoir tes petites impressions sur l'atelier voix que tu as fait. J'ai vu que tu t'étais lâché au niveau du chant.
Oui, j'ai adoré. Moi, je suis quelqu'un qui chante à la base. J'ai jamais pris de cours de chant, j'ai jamais eu l'occasion d'en prendre. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et là, de l'entendre chanter aussi bien, ça m'a fait plaisir et ça m'a donné envie de chanter comme elle.
Qu'est-ce que tu chantes?
Je chante plein de musiques différentes. Ça peut être du jazz, comme de la pop. Ça varie.
Et c'est où que tu chantes dans la journée?
C'est tout le temps, sous la douche, dans ma chambre, quand je me réveille, quand je m'endors. Je chante tout le temps, je passe ma vie à chanter.
Je peux te demander un prénom?
Roxane.
Merci beaucoup, Roxane. Carmen, l'amour, Jean-Claude Jaboulet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu penses de l'amour?
Question piège.
C'est une vraie question.
Je pouvais la faire. Donc on était, oui. Voilà, on écoutait l'atelier de Catherine à l'Opéra de Saint-Étienne. Bonjour Jean-Claude. Donc toi, tu es directeur de territoire de la Fondation VE, c'est ça?
Oui, je suis directeur de territoire.
On a écouté au tout début de l'émission un texte lu par Julia, qui était un texte de toi. On peut le dire quand même.
Oui, oui.
Qui était un texte sur le thème de la curiosité. Donc la boucle est bouclée, curieux encart, curiosité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème? Puisque du coup tu es aussi partie prenante avec Julia de ce qu'on fait là aujourd'hui dans la Fondation VE.
Le principe, c'est que c'est à l'issue de nos élucubrations et on s'est dit qu'effectivement ce qu'on propose au niveau du pôle ressources culture, c'est effectivement la rencontre entre comme on l'a entendu dans les reportages, c'est la rencontre entre le milieu, soi-disant, dit ordinaire ou intérieur, les établissements, les gens entre eux, etc. Et le but, c'était de dire que Bah, la rencontre, c'est aussi le démarrage d'une curiosité. Le principe, c'est que bah, cette curiosité dans nos sociétés, on va dire qu'elles ne sont pas très bien vues, sauf que c'est un... Pour moi, c'est un moteur essentiel de... Bah, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut apprendre. Et puis, on l'a vu, hein, quand les gens disent « j'ai rencontré ma partenaire de jeu », c'est... À un moment donné, il y a eu une curiosité un peu... voilà, qui était à la base de cette rencontre. Sinon, il n'y aurait pas eu une étincelle, il n'y aurait pas eu... voilà.
Alors, on t'a vu écouter dans le studio, là, à côté, on t'avait écouté religieusement l'émission. Est-ce que tu as un petit retour sur ce panorama, peut-être pas complet, peut-être pas parfait, des curieux rancards de ce mois culturel de la Fondation OVE ?
Bah, tout d'abord, je trouve qu'effectivement, on a... Quand on a mis en place ces curieux rancards, on était... la période n'est pas forcément très, comment dirais-je, enjouée, hein, puisqu'on sort quand même d'une période pas terrible. Et moi, j'ai trouvé que les établissements, les structures et puis les gens qui les portent ont joué le jeu. Et pour moi, on est, à mon avis, bien raccord. Si je veux faire un peu de, comment dirais-je, si je veux être dans la fondation, comme je le suis. Mais je pense que c'est, on est en accord avec les valeurs de ce qu'on porte. Les valeurs de ce qu'on porte, des rencontres, les valeurs de ce qu'on porte, d'intégrité de la personne, les valeurs de, comment dirais-je, d'égalité. On l'a vu, j'ai bien écouté le Victor Hugo 2.0, où c'est là-dessus que ça se passe, et les témoignages sont un peu là-dessus. C'est sur la personne, sur les hommes et les femmes, mais c'est aussi sur les personnes qu'on accueille et comment ils sont... dans la société à un moment donné, ou sortie de la société, ce qui est des fois un peu pas terrible, on va dire.
Voilà. Ça rejoint ce que disait Mathilde tout à l'heure sur le mot inclusif qu'on entend beaucoup, peut-être parfois à tort et à travers, je ne sais pas, dans la société. Qu'est-ce que tu mets, toi, sur ce mot inclusif? Peut-être que je fais une référence à ton texte, la curiosité, l'inclusif, en tout cas, être curieux d'aller vers l'autre.
Ben, l'inclusif, on a dans notre secteur médico-social beaucoup vécu des structures très fermées, sous prétexte que les gens étaient quelque part un peu vulnérables. Et on s'est dit qu'à un moment donné, on allait les mettre à part. Et c'est ce à part qui, à un moment donné, gêne un peu. Et c'est bien, je trouve que c'est... Alors effectivement, c'est un terme qui est beaucoup, beaucoup utilisé. Mais c'est bien qu'il y ait un déclic. C'est bien qu'il y ait un déclic de dire comment ça se passe, comment les gens sont dans la société. Et il n'y a pas si longtemps, on avait un témoignage de quelqu'un qui faisait un peu l'éloge de la difficulté, ou en tout cas l'éloge de la faiblesse, et qui nous renvoyait à nos propres questionnements sur nous, individus dits... Mais je reprends toujours l'exemple, dans le milieu ordinaire, qu'est-ce qu'on fait ou on ne fait pas pour les personnes qui sont en difficulté, en sachant qu'on est tous à un moment donné en difficulté, à un moment donné ou un autre.
Pour revenir, au fondement de la Fondation OVE, peut-être que Julia, tu peux aussi intervenir. Vous avez quand même créé quelque chose qui justement aide à cette inclusivité, en faisant un pont entre... handicap, culture, enfin en tout cas en développant des projets comme les curieux rancards, mais comme d'autres au long cours sur l'année. On peut peut-être en parler, ça rejoint aussi peut-être qu'est-ce que la Fondation OVE, l'historique aussi, mais déjà l'historique de ce que vous avez vous créé, Jean-Claude et Julia.
Si.
Alors, je ne sais pas si on l'a créé en fait, avant que le service d'appui aux projets culturels se mette en place, il y a plein de choses qui se passaient à la Fondation. Plein de projets. Je crois que ce à quoi on a servi, c'est déjà de mettre un peu la focale sur ça, dire que ça existe en fait, que ça existe, et puis aussi commencer à qualifier quel est l'enjeu en fait quand on met en place un atelier. Est-ce qu'on est du côté du soin qui est nécessaire pour les personnes qu'on accompagne, du thérapeutique? Est-ce qu'on est aussi du côté de reconnaître la personne dans son identité et son souhait de vivre sa culture indépendamment uniquement du prisme de je suis en situation de handicap ou il faut que je soigne ça? Non, en fait, je suis quelqu'un. J'ai besoin de vivre des expériences de création, de découverte d'univers artistique. Et pour ça, il faut que on réfléchisse à comment la rencontre a bien lieu ou pas, à quel endroit ça bloque dans l'accessibilité, mais aussi dans la reconnaissance des capacités de chacun à pouvoir dire et exprimer des choses. Je pense que là, on est dans un enjeu un peu particulier et on essaye de petit à petit, nous, de s'impliquer sur ces questions-là autour des droits culturels des personnes, qui est justement d'essayer de voir comment on n'est pas uniquement dans un souci d'accès à la culture, comme si la culture était tout le temps dans des lieux consacrés extérieurs à, c'est comment ces lieux qui sont hyper importants pour nous sont des lieux pour tous, à la fois pour voir des univers artistiques ultra riches, mais aussi pour faire entendre et faire connaître les possibilités de chacun, y compris des amateurs qui peuvent avoir des choses à dire aux artistes professionnels. Donc nous, on est là un peu, je pense, pour rassembler les réflexions, les projets et puis appuyer bien sûr aussi les projets parce que nos équipes, elles ont besoin, elles sont dans le quotidien, elles ont plein de choses à gérer tous les jours. Donc s'ils peuvent avoir de l'appui pour chercher des financements, pour se mettre en lien avec des artistes et cadrer un peu tout ça, je pense que c'est important pour eux en fait. Donc voilà, nous, notre rôle depuis que le pôle ressources existe, donc ça fait un peu plus de 7 ans maintenant, c'est surtout ça.
Jean-Claude, tu veux...
Oui, plus globalement, pardon, on est en plein dans la, j'allais dire, dans la philosophie de la fondation, puisque c'est une fondation qui s'est créée quand même au sortir de la guerre. En tout cas, il y avait eu une activité pendant la guerre de mettre des gens un peu à l'abri de cette mauvaise voilà de cette mauvaise passe, y compris ethniquement, hein. Donc du coup voilà, petit à petit, effectivement, il y a eu une construction d'établissements en direction d'un certain nombre d'enfants, adolescents, jeunes adultes ayant des difficultés. Mais je crois que la philosophie générale, et on parlait d'inclusion, c'est bien de alors non pas de niveler, mais c'est d'arriver à créer des ponts entre cet univers un petit peu prescrit et puis l'univers de tous les jours, etc. Et c'est quand même un axe majoritaire. Et là, à travers les reportages qu'on a, on est bien raccord avec cette philosophie de voilà, à la fois d'accueil, à la fois de prendre soin. Et puis à la fois de ne pas infantiliser, entre guillemets. Et je pense que le développement d'activités artistiques, dans la rencontre qu'elles provoquent, moi j'avais noté, hein, je veux dire, Boltanski, qui est disparu il n'y a pas si longtemps, disait que une exposition, c'est toujours une question posée. Moi j'allais dire, une rencontre et une activité artistique, c'est toujours une question posée. Qu'elle soit posée au niveau de l'individu qui y participe et qu'elle soit posée au niveau de la structure dans laquelle elle se passe. Voilà, c'est un peu ça.
Donc tu cites Boltanski.
Ouais, comme ça.
Oui, non, mais tu cites Boltanski et du coup, moi j'ai le son de son cœur qui est réamplifié dans une salle d'expo qui était assez impressionnant. Et pour finir, je sais que tu peins.
Il paraît, oui.
N'est-ce pas?
Oui, un petit peu.
Donc c'est aussi ce rapport entre la pratique, peut-être amatrice ou pro, je ne sais pas, mais en tout cas, une pratique que toi, tu pratiques et ton travail en tant que directeur de territoire dans la Fondation, peut-être que tu fais aussi un pont.
Oui, je crois que ça revient. Enfin, je veux dire, c'est un point aussi de concordance, parce que je suis plutôt sensible à ce genre d'activité. Et du coup, c'est vrai que ça s'est un peu concrétisé en mettant en place le pôle ressources. Et oui, effectivement, je peins, je sculpte, mais très modestement. Et puis voilà, j'essaye de rechercher des choses et de me poser des questions à moi-même, moi aussi.
D'accord. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Pôle ressources qui a été à l'initiative de ces curieux rencarts, de ce mois culturel. Peut-être qu'il y a des merci de la part de Julia, de la part de Jean-Claude. Jean-Claude, ouais.
Oui, moi je voulais quand même en tout cas remercier chaleureusement, enfin en tout cas un super remerciement pour tout ce qui s'est passé normalement sur ces curieux rencarts. En premier lieu, effectivement, les dames du pôle ressources, c'est-à-dire Julia et Marine. Les structures, bien sûr, qui ont répondu présentes parce que ce n'était pas forcément évident. On était un peu à distance, voilà, de faire l'effort de se retrouver ou d'aller demander à une autre structure s'ils voulaient comme on a entendu dans le reportage, jouer est-ce que tu veux jouer avec moi ?
D'où
et
la
puis
radio,
les, et puis les intervenants, enfin, on a vu qu'il y avait quand même des personnes accompagnées qui se sont beaucoup investies et dont on a découvert certaines dispositions. Notre partenaire TADA, hein, qui nous suit depuis la première journée professionnelle de la culture, qui avait beaucoup, comment dirais-je, surpris, et les professionnels et la fondation, et puis vous aussi qui avez, comment dirais-je, médiatisé ce truc. Voilà.
Julia, est-ce que tu
oui, ben moi je voulais aussi
première
remercier.
Première salve de remerciements.
Oui, ça va être de la salve parce que je tenais, c'est vrai, à citer, à donner des prénoms et des noms de toutes les personnes qui ont été parties prenantes de cette histoire. Et je pense un grand merci notamment à Laetitia Le Sénéchal, à Liliane Dupart, à Célia Broussillon, à Edith Pêcheur, Clarisse Fortier, Julia Praden, Alexandre Duquesne, Delphine Volpoué, Natacha Berger, Camille Blanco, Clara Robert, Frédéric Gramont et Alice Poncet, qui sont tous ces professionnels qui ont la particularité, pardon, pour un certain nombre d'entre eux d'être référents culture dans nos établissements et qui ont été voilà, très impliqués sur ces rencarts. Et puis bien sûr un grand merci aussi à leurs équipes autour parce que seuls ils ne pourraient pas proposer des tels moments d'accueil et chaleureux, donc leurs équipes éducatives et leurs directeurs et directrices qui ont vraiment permis que ces rencarts aient lieu tout au long du mois de septembre. Donc ça, c'était voilà, déjà pour nos professionnels, mais il n'y avait pas que nos professionnels dans l'histoire. Il y avait aussi une ribambelle de merci pour les artistes et partenaires culturels voilà, qui ont été associés à notre événement. Claudine Gruffa pour les Microfolies de Faverges et leurs homologues de Saint-Marcellin et Villeurbanne. Pierre Gramont, réalisateur du film Victor Hugo 2.0 et ses comédiens, Eugénie Aznar, Anaïs Zimanski, Jonathan Charvat, Thierry Buffard, Benoît Duriot, Gary Fillon-Robin, oui, et Benjamin Laurent, les danseurs et danseuses de la compagnie Tatou et leur chorégraphe, Florence Merigali, les photographes du collectif ITEM, on en a entendu un, Philippe Sonolet, mais il y avait aussi Adrienne Surprenant dans l'histoire, à Danos, un street artiste qui a fait une superbe voilà, performance aux femmes Romain Jacob. On n'a pas pu avoir de reportage, mais n'hésitez pas à aller regarder le blog parce qu'on a pas mal de choses qui se racontent sur Sécurité en Car et notamment celui aux femmes Romain Jacob qui valait le coup d'œil, à Anne Maregiano et Ingrid Saumur, des artistes associés au projet Un Corse à Travail, et enfin à Catherine Séon, chanteuse lyrique, Laurent Touche, chef de chœur, Aude Monas et Clarisse Giroux de l'Opéra de Saint-Étienne. Voilà pour tous les artistes et les partenaires culturels.
Voilà, ils sont partis en pause déjà.
Je crois qu'ils sont partis en pause. C'est normal, c'est midi, il faut aller manger.
Curieuse, curieux. La radio. Curieux rencard. Les curieux rencards, la radio. En direct. La curiosité des curieux rencarts vous rendra curieuse et curieux.
Alors, on n'a pas fini avec les remerciements, Julia, et du coup, il y a une musique qui t'accompagne. On continue ?
Et oui, je continue, parce que là, on parlait des artistes, des professionnels de la Fondation, mais il y a un grand, grand, grand merci aux participants qui se sont prêtés au jeu de nos curieux rencarts en ne connaissant pas toujours bien la règle. Merci pour votre curiosité. Un grand merci aussi à notre direction générale et plus particulièrement à Géraldine Massonnat, directrice du siège, et Delphine Danecker, directrice de la communication, d'avoir encouragé ce projet et de nous avoir permis d'émettre aujourd'hui depuis le bâtiment du siège à Vaux-en-Velin. Une émission qui n'aurait pas pu être réalisée sans l'appui d'une équipée de reporters radio. Thomas Le Chevalier, Tony Tomine, accompagné de Léna Dumas pour l'IM Jean-Jacques Rousseau, à Cheikhou Diaby, Manouni Camara, Oumar Sy, Marie-Noël Orva, Jamie Cadet, stagiaire du Centre Forja et leur formateur Clément Perrin. Et à Enzo Rocha, notre preneur de son en chef pour le DEAT 42, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Une émission qui n'aurait pas pu passer dans les tuyaux mystérieux des internets et du streaming, notamment sans les conseils techniques de notre direction du système d'information. Un merci particulier à Nathalie Chevry et à Vincent Barberis pour leur aide. Et enfin, une émission qui n'aurait pas pu être pensée, orchestrée, montée, diffusée, enregistrée sans vous deux, Marc-Antoine Granier et Mathilde Billot, réalisateurs et réalisatrices radio. Merci d'avoir relevé ce défi de composer un direct en 15 jours chrono ou presque, avec nos envies hétéroclites et notre joyeux bazar de curieux rancards.
Voilà, c'était Curieux Rancard, la radio en direct de la Fondation OVE avec Mathilde et Marquant à la Réal, représente Grain Z. Spéciale dédicace, je le redis, Thomas, Tony, Jamie, Uvan, Marie-Noël, Omar, Chikou, Manini et Enzo. Et merci Mathilde.
Merci Marquant.
À bientôt sur les ondes.